Vous écoutez France Inter, au quatrième top, il sera exactement 19h. Le journal, bonsoir Pierre Veille.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. À l'heure du déconfinement, le mode d'emploi du train change. 100% de l'offre de la SNCF commercialisée à partir de la mi-juin. La règle d'un siège sur deux occupé dans les TGV est abandonnée. Les forains en colère après l'annulation de la fête des loges pour cause de crise sanitaire. Ils ne comprennent pas cette annulation alors que de nombreux parcs d'attractions vont rouvrir. La capsule SpaceX avec ses deux astronautes s'est amarrée à l'heure prévue cet après-midi à la Station Spatiale Internationale. Donald Trump a téléphoné à la famille de George Floyd, cet homme noir tué par un policier blanc. Les manifestations contre le racisme continuent aux États-Unis dans des dizaines de villes malgré les couvre-feux. Et puis à la fin de ce journal, page culture, au musée des impressionnismes à Giverny, pour cause de confinement, on n'a pas pu accueillir les œuvres de l'exposition plein air de Corot à Monet. Le musée les a mis en ligne.
France Inter.
Après-demain, le sésame tant attendu, cafés, restaurants et bars pourront à nouveau accueillir des clients après plus de 2 mois de fermeture. Les règles sanitaires seront strictes, 10 personnes maximum par table, 1 mètre au moins entre chaque groupe, consommation debout interdite dans les bars. En Ile-de-France, seules les terrasses seront accessibles. Alors à Paris, la mairie annonce que les bars, cafés et restaurants pourront s'étendre sur une partie de l'espace public, trottoirs, places de stationnement, voire quelques rues fermées à la circulation. Et puis Manuel Ruffès, dans les transports publics à la SNCF, là aussi, on va vers un retour à la normale.
C'est un pas important vers un retour à la normale, salué à la fois par l'opérateur, mais aussi par les associations d'usagers. La fin de la règle d'un siège sur deux, 100% des billets à nouveau à la vente dès la mi-juin, c'est un bon signal, estime par exemple Bruno Gazot, le président de la Fédération des associations d'usagers des transports. Ça va redonner confiance aux gens pour reprendre le train et permettre au train, précise-t-il aussi, de récupérer ses parts de marché. En termes de sécurité, le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari, insiste bien sur le fait que le masque reste strictement obligatoire, sacralisé, dit-il même. Et puis si l'offre revient en totalité, la fréquentation, elle ne devrait toujours pas dépasser, dans les premiers temps en tout cas, les 50%. Enfin, l'Île-de-France se déconfine un peu moins vite. Dans les transports en commun aux heures de pointe, l'attestation employeur reste obligatoire jusqu'au 22 juin. Mais 70% des Franciliens sont restés chez eux grâce au télétravail, note Jean-Baptiste Djebbari, qui souhaite que ça continue ainsi encore tout le mois de juin.
Manuel Ruffès sur les changements dans les transports.
Les forains de la fête des loges sont en colère.
Oui, cet événement vieux de 3 siècles est annulé sur décision de la mairie de Saint-Germain-en-Laye qui invoque le contexte sanitaire actuel. La fête des loges devait se tenir du 26 juin au 16 août. Elle mobilise 170 entreprises qui s'estiment gravement pénalisées alors que des parcs d'attractions comme le parc Astérix ou le Puy du Fou vont reprendre leurs activités. Écoutez ce qu'en dit Xavier Saguet, représentant des forains. Il gère 2 manèges à la fête des loges depuis 20 ans. Il est interrogé par Rémi Brancato.
Toutes les autres professions du loisir, que ce soit les cafés, les restaurants, les parcs de loisirs, les jardins, les piscines, les cinémas, tout le monde a reçu une date de réouverture. Et la fête foraine, on n'en a pas. On l'a dit haut et fort qu'on était les grands oubliés de cette cellule de déconfinement. Il n'y a aucune circulaire, aucun décret qui a été publié au journal officiel aidant à la réouverture des fêtes. Vous imaginez que le 26 juin, quand le parc Astérix va être ouvert ou d'autres, enfin, eh bien, à côté, on installe les mêmes manèges à la fête des loges et nous, on n'a pas le droit d'exploiter parce qu'on est forain. Je pense qu'on peut qualifier ça de racisme commercial. Non seulement on est oublié et en plus de ça, on manque beaucoup de considération face à notre tradition foraine qui existe depuis 368 ans. Les maires sont totalement abandonnés dans cette aventure. Il n'y a eu aucune déclaration claire du Premier ministre. Le maire qui, au bout de la 368e édition, doit dire qu'il n'y aura pas de fête des loges cette année. Ça doit être affreux.
Voilà, avec Rémi Brancato, Xavier Saguet, représentant des forains, il demande un rendez-vous avec le maire de Saint-Germain-en-Laye avant demain, lundi midi. Le patron du groupe Renault, Jean-Dominique Senard, a dit aujourd'hui qu'il n'a aucune intention de fermer le site de Maubeuge, où plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier contre le plan d'économie annoncé par le constructeur. Sur France 3, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a aussi pris des engagements sur l'avenir de ce site Renault de Maubeuge.
Maubeuge est un site d'excellence, qui est très productif.
Mais qui va disparaître.
Et donc, Maubeuge ne va pas disparaître. Maubeuge ne disparaîtra pas. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a des réflexions? C'est tout simplement, si on met les choses très clairement et sereinement sur la table, qu'à Maubeuge, il y a un peu plus de 200 000 mètres carrés de disponibles pour s'étendre, et que dans l'autre site du Nord, Douai, il y a 600 000 mètres carrés. Donc c'est ça la justification principale pour dire on pourrait déplacer les activités de Maubeuge à Douai. Moi, je vois les résistances et je vois les inquiétudes des salariés de Maubeuge, donc je vais les recevoir. Je vais recevoir mardi avec le président de Renault, leurs représentants syndicaux, je vais recevoir les élus et nous allons discuter pour voir s'il y a des options alternatives. Et s'il y a des options alternatives qui permettent de concilier le développement, la préservation des sites et en même temps la compétitivité de Renault, c'est celle que nous choisirons. C'est un processus qui commence.
Alors,
ça n'est pas une décision qui est arrêtée, je vais être très clair là-dessus, notamment vis-à-vis des salariés de Maubeuge.
Bruno Le Maire, le ministre de l'économie.
Aux États-Unis, la colère ne retombe pas après la mort lundi de George Floyd. C'est un Afro-Américain tué par un policier blanc à Minneapolis.
William Clair, les manifestations s'étendent à travers tout le pays. Une douzaine de villes ont maintenant décrété des couvre-feux. Des affrontements violents entre manifestants et policiers et des pillages ont eu lieu la nuit dernière à Minneapolis, bien sûr, mais aussi à New York, Atlanta, Washington ou Los Angeles. Des centaines de personnes ont été interpellées. Dans l'entourage de Donald Trump, on pousse le président à s'exprimer publiquement. À Washington, Grégory Phillips.
Après un aller-retour rapide en Floride pour assister au lancement de la fusée SpaceX, Donald Trump est rentré hier soir à la Maison-Blanche et c'est quasiment sous ses fenêtres qu'on a vu s'affronter jusqu'au milieu de la nuit manifestants et policiers. Mais pour l'instant, le président reste quasi muet, même sur Twitter. Ses conseillers réfléchissent à une adresse à la nation, comme celle de George Bush en mai 92, alors que Los Angeles connaissait des émeutes violentes après la mort de Rodney King. Et ce matin, le présentateur de l'émission Fox and Friends Sunday appelait Trump à endosser le costume d'unificateur en chef. Ces 6 derniers jours, le président a à plusieurs reprises dénoncé la mort tragique de Floyd, mais aussi accusé l'extrême gauche radicale d'être derrière les pillages et les manifestations. Sur MSNBC, la famille de la victime raconte avoir reçu un coup de téléphone de Trump, mais très rapide. Je lui ai demandé que justice soit rendue, témoigne le frère de George Floyd, mais le président ne m'a quasiment pas laissé parler. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et maintenant, Pierre, direction l'espace pour la mission SpaceX.
Oui, la capsule de SpaceX Endeavour s'est amarrée cet après-midi sans encombre à la station spatiale internationale, à 400 km de la Terre, après 19 heures de voyage. Étape cruciale pour cette mission historique. C'est la première fois qu'un équipage rejoint la station spatiale internationale dans un engin privé, celui du milliardaire Elon Musk. La mission se déroule parfaitement depuis le décollage, hier soir en Floride. Sophie Becherel, bonsoir.
Bonsoir.
Sophie, les deux astronautes américains Bob Denken et Doug Hurley auront désormais plus d'espace dans quelques instants. Ils vont quitter la capsule et retrouver les trois occupants actuels de l'ISS, deux Russes et un Américain.
Voilà, c'est ça. Alors, ça n'est pas tout à fait fait. La porte est ouverte, mais ils ne sont pas encore passés de l'autre côté. Alors que l'amarrage avait eu lieu avec lui quelques minutes d'avance, là, il faut plus de 2h30 finalement pour finaliser cette manœuvre. Bon, les deux vaisseaux se sont parfaitement accrochés. Il a fallu donc équilibrer la pression pour que les astronautes puissent entrer dans leur nouvelle maison. Et puis, c'est une étape évidemment clé, une étape supplémentaire dans cette mission d'importance pour le partenariat entre SpaceX et la NASA. Et les images ont vraiment été saisissantes, avec le sentiment que la réalité rejoignait le cinéma, celui de Stanley Kubrick en l'occurrence. Cela tient à la qualité des images fournies par la NASA, mais aussi à l'éclairage très étudié de la capsule Dragon de SpaceX, et puis ce plan insolite de ce vaisseau blanc sur le fond noir de l'espace qui s'approche très lentement de la station alors qu'il navigue à 25 000 km par heure. Il ne manquait finalement que la musique de Strauss. Alors dans quelques minutes, les deux équipages vont donc se réunir, Doug Hurley et Bob Ben Ken vont rejoindre Chris Cassidy, Anatoly Ivashnichin et Ivan Wagner qui sont dans l'ISS depuis quelques semaines. Dans l'espace, on se moque du Covid et vraisemblablement, comme cela se fait toujours, ils vont s'étreindre. Bob et Doug ont eu le temps de quitter leur combinaison de voyage pour une tenue plus légère. Ils vont maintenant vivre en chaussettes. Pour combien de temps? La NASA est indécise, entre 1 et 3 mois. Après cette mission, retour à la maison avec le même vaisseau et une ultime étape critique pour SpaceX. Il faudra en passer par un amérissage à la façon des capsules Apollo avec amorti grâce à 4 parachutes.
Sophie Becherel. Au Vatican, pour se protéger du coronavirus, le cérémonial a changé en ce dimanche de Pentecôte. Le pape François a célébré la messe dans la basilique Saint-Pierre en présence seulement d'une cinquantaine de personnes. Et puis, pour la première fois depuis 3 mois, il s'est adressé directement aux fidèles. On l'a vu à une fenêtre du palais apostolique. Il a salué quelques centaines de personnes dispersées sur l'immense place Saint-Pierre, à Rome, Marie Duhamel.
À Rome, les messes en public ont repris le 18 mai, mais pas au Vatican. Et pendant que François présidait la célébration de la Pentecôte à huis clos, des Romains faisaient dehors la queue pour entrer place Saint-Pierre, comme Francesca.
Je suis ici, en train d'entrer pour écouter l'Angélus. Je suis croyante. C'est important pour moi de venir le voir.
Les fidèles ont pu entrer place Saint-Pierre au compte-gouttes. On vérifie leurs sacs, leur distribue du gel désinfectant. Des voitures de police patrouillent pour s'assurer que les distances de sécurité sont respectées. Elles le sont sans aucun doute, explique Laura.
Nous, les Romains, rarement on voit une place aussi dégagée. Mais je perçois néanmoins un sens de renaissance après ces derniers mois.
Fratelli e sorelle, buongiorno.
Les catholiques de Rome sont venus entendre le pape, mais également venus lui exprimer leur gratitude.
Chaque matin, il a fait diffuser ses messes à la télévision. Il y a une vraie présence tangible du pape. C'est une consolation de savoir que quelqu'un t'est proche.
Pour la première fois, les catholiques ont vu, entendu François sans caméra ou écran interposé, une grâce, selon eux, tout comme le fait de pouvoir se retrouver, un nouveau signe de normalité, alors que le déconfinement s'accélère. Rome, Marie Duhamel, France Inter.
Retour en France, le parquet de Paris requiert un procès pour Jean-Marc Morandini, procès pour corruption de mineurs. Le parquet confirme cette information donnée ce matin par Le Parisien. L'animateur de CNews et NRJ 12 est visé par les accusations de 2 jeunes hommes, accusations que Jean-Marc Morandini conteste. Corinne Audouin, l'affaire avait commencé en 2016.
Tout part d'une longue enquête publiée par le magazine Les Inrocks à l'été 2016. Le journal publie les témoignages de jeunes comédiens recrutés par l'animateur pour tourner dans une web-série et incités à se dénuder ou à se masturber devant la caméra. L'article déclenche d'autres témoignages et un jeune homme porte plainte. Il accuse Jean-Marc Morandini de lui avoir fait des propositions sexuelles via le réseau Twitter alors qu'il n'avait que 15 ans. Des faits qui remonteraient à 2013. Un autre plaignant mineur s'ajoute à la procédure, un adolescent de 16 ans à qui Jean-Marc Morandini aurait demandé de se déshabiller et de se masturber lors d'une audition en 2009. C'est pour ces 2 faits que le parquet demande que l'animateur soit jugé, même si depuis le premier jeune homme a retiré sa plainte, expliquant que Jean-Marc Morandini ne connaissait pas son âge. La défense de l'animateur s'étonne de ces réquisitions, alors que des demandes d'actes, notamment l'expertise du téléphone du premier jeune homme, sont toujours en cours. C'est désormais au juge d'instruction de décider de renvoyer ou non Jean-Marc Morandini devant un tribunal.
Corinne Audouin sur l'affaire Morandini. On a vu ces derniers mois de très nombreux sportifs s'engager, se mobiliser face à la crise sanitaire que nous traversons. Le footballeur Hugo Lloris ou le cycliste Thibaut Pinot ont mis aux enchères leurs maillots sur Internet. Tout l'argent récolté est ensuite versé à la Fédération hospitalière de France. Et cette semaine, Laetitia Bernard, c'est la footballeuse de l'équipe de France, Sarah Bouadi, qui vient de lancer une campagne d'appel aux dons pour soutenir les familles défavorisées, monoparentales, endeuillées par le Covid-19.
L'idée lui a trotté dans la tête pendant des jours. Elle y pensait la nuit. La gardienne des Bleus voulait faire quelque chose pour aider ces familles en difficulté, ayant perdu un des 2 parents des suites du coronavirus.
C'est vrai que de voir tous les reportages sur les télés, tous les témoignages des familles, on est obligé d'être touché par ces témoignages-là et ces deuils-là. Même si on ne connaît pas ces familles-là, je me suis imaginée à leur place et je me suis dit ça doit être très compliqué. Et pourquoi pas avoir une aide qui viendrait d'un peu tout le peuple français, de solidarité pour essayer de surmonter cette épreuve.
Alors elle a fait équipe avec la fondation 101, investie dans les progrès de la réanimation et dans l'accompagnement des patients et de leurs proches. Avec la campagne Gardien de l'Espoir, elle en appelle aux sportifs, aux entreprises, aux citoyens. L'objectif est de récolter 1 million d'euros et de verser une allocation à 200 familles pour qu'elles puissent faire face aux dépenses les plus urgentes, la préparation de la rentrée scolaire des enfants par exemple. Des familles identifiées par les services de réanimation ou qui peuvent également déposer un dossier sur le site internet Les Gardiens de l'Espoir.
Laetitia Bernard, les sports encore et l'affaire Didier Gayaguet, l'ex-président de la Fédération des sports de glace au cœur du scandale des violences sexuelles dans le patrimoine patinage français, il contre-attaque. Le ministère des Sports estime que sa démission a été faite en pleine conscience. L'avocat de Didier Gayaguet, Maître Bourdon, annonce qu'il va désormais saisir le tribunal administratif. En fait, Cédric Guillou, Didier Gayaguet ne veut pas être considéré comme le responsable du scandale.
L'affrontement continue entre Didier Gayaguet et Roxana Maracineanu. L'avocat de l'ancien président de la Fédération française des sports de glace, Maître Bourdon, annonce désormais vouloir saisir le tribunal administratif dans le conflit qui l'oppose au ministère des Sports. Didier Gayaguet exige de ne pas être considéré comme le bouc émissaire dans le scandale de violences sexuelles dans le patinage français, scandale qui avait éclaté début février dernier et qui l'avait amené à quitter la présidence de la Fédération. Il dénonce les pressions et déclarations de la ministre des Sports pour le contraindre à démissionner. Il réclame même un peu plus de 300 000 euros d'indemnisation, correspondant aux 27 mois d'indemnité qu'il aurait touché selon lui s'il était allé au bout de son mandat, ainsi que pour préjudice moral. Le ministère des Sports refuse et estime de son côté que Roxana Maracineanu l'a invité à assumer ses responsabilités en tant que représentant légal de la fédération.
Les musées, peu à peu, vont rouvrir dans le processus de déconfinement, mais de nombreuses expositions ont été reportées ou annulées. L'incertitude liée longtemps aux dates du déconfinement ne leur a pas permis de garder ou de recevoir les œuvres. À Giverny, le musée des impressionnismes a décidé de mettre en ligne l'exposition plein air de Corot à Monet, qui devait s'ouvrir le 27 avril. Jacqueline Pétrose, les visiteurs virtuels pourront ainsi quand même profiter des chefs-d'œuvre dont beaucoup étaient issus de collections privées.
Certains tableaux étaient arrivés, mais le confinement a imposé la fermeture du musée et tout s'est figé. Cyril Siama, directeur général du musée.
Les œuvres étaient bloquées en fait à l'étranger. Certaines venaient d'Angleterre, d'autres d'Italie. Et sur les 120 œuvres, on avait acheminé environ 30 œuvres. Donc c'était impossible de tenir les délais pour l'accrochage et l'installation. Et l'exposition devait s'achever le 28 juin, donc c'était trop court.
Alors les équipes se sont mobilisées, les chefs-d'œuvre seront bien là, mais sur le web, avec le parcours prévu, les notices, les explications et du contenu enrichi de photos et de vues aériennes, pour que le public puisse découvrir en privilégié des tableaux exceptionnels.
Il y a beaucoup d'œuvres qui étaient dans les collections privées, donc on va pouvoir les montrer. Il y a un tableau qui était vraiment magique, qui était sublime, qui vient de Washington, c'est Les Promeneurs de Claude Monet. Mais aussi, on a une œuvre de Degas, superbe, vue d'Italie de 1856, qui a été faite depuis une fenêtre. Il y avait toute une section sur ces impressionnistes italiens qu'on appelle les Macaioli. C'est très compliqué d'avoir ces œuvres-là, c'est des œuvres qui sont un peu des stars en Italie.
Malgré le crève-cœur d'annuler une exposition, la magie du numérique donne ici la possibilité d'enrichir le regard.
Jacqueline Pétrose, l'exposition plein air de Corot à Monet est à voir sur Google Art et Culture et sur le site du musée des impressionnismes, mdig.fr. Le musée, lui, rouvrira fin juin en présentant sa très belle collection permanente. À l'instant, le bilan de l'épidémie de Covid-19 en France, comme tous les jours, 31 morts en 24 heures dans les hôpitaux et la baisse se poursuit dans les services de réanimation. L'art lyrique est une disparition. La cantatrice Maddy Mesplé, voix cristalline de l'opéra des années 50 à la fin des années 70, est morte hier à Toulouse. Elle avait 89 ans. Elle s'est produite dans les plus grandes salles du monde. Et puis les obsèques de Guy Bedos auront lieu jeudi prochain à Paris, en l'église Saint-Germain-des-Prés. Ce sera à 14h30. C'est ce qu'annonce son fils Nicolas, qui précise, je le cite, que son père n'était pas très pote avec la religion, mais très ému par les églises. C'est la fin de ce journal. Vous retrouvez Claire Sarvajon.
Merci beaucoup pour ce journal, Pierre Veil. Dans un instant, le temps.
La météo, avec la Fondation de France, la PHP et l'Institut Pasteur, qui unissent leurs forces pour aider les soignants, les chercheurs et les personnes vulnérables. Tous unis contre le virus sur fondationdefrance.org.
Prévision de Jean-Michel Golinski de Météo France.
Une fin de week-end de la Pentecôte, un peu plus mitigée en termes de temps sensible pour les régions de la moitié sud, avec l'installation progressive mais certaine d'un ciel souvent nébuleux, devenant plus instable passé la mi-journée, avec des ondées en plaine, parfois mêlées d'orages, surtout en montagne, tandis que plus haut, du nord de la Loire au Grand Est, maintient le soleil rayonnant, mais avec toujours ce vent d'est sensible l'après-midi, dans des températures déjà partout confortables en fin de nuit et des valeurs en hausse l'après-midi par rapport à aujourd'hui sur les régions les plus à l'est, mettant l'ensemble du pays entre 25 et 30 degrés en général dans l'intérieur et vers 22 ou 24 degrés sur les côtes de la Manche.